C'est pour nous une joie de vous rencontrer et de passer ces moments ensemble ce soir et demain, tu voulant, de pouvoir nous retrouver non seulement pour faire connaissance, mais aussi de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et notre désir, c'est d'être enseigné par cette parole, d'écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa parole et véritablement d'apprendre de lui, de sa révélation, de ce qu'il dit au sujet de l'homme, au sujet de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, au sujet de l'œuvre qu'il a accomplie et au sujet de ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Et ce soir, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Nous allons lire quelques versets, je pense que vous les connaissez. Mais je voudrais m'attarder ce soir sur quelque chose qui est fondamental, quelque chose que l'on n'entend pas souvent aujourd'hui. Et nous allons lire les versets 1 à 10 de ce chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul rappelle à ces Éphésiens leur parcours, ce qui s'est passé, d'où ils viennent et ce que Dieu a fait. Et voici ce qu'il écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les bijouteries, ou si vous avez l'habitude d'offrir régulièrement un bijou, un diamant, une pierre précieuse. Mais les bijoutiers, quand ils veulent mettre en évidence un diamant ou une pierre précieuse ou un bijou particulier, ils vont le placer sur un coussin ou dans un écrin qui est de couleur sombre. Et la beauté de cette pierre, elle ressort encore plus. C'est le contraste qui fait que cette pierre apparaît comme étant une pierre magnifique. Quand on parle de la perfection du Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de la beauté et de la grandeur de son œuvre, notre perception est trop souvent limitée. On oublie, on ignore, on ne fait pas attention la couleur sombre du coussin sur lequel le diamant est présenté. Dans beaucoup de milieux aujourd'hui, des milieux chrétiens, des milieux évangéliques, si on demande pourquoi le péché est un problème, on va nous dire que le péché nous rend coupables devant Dieu, que le péché nous place sous la condamnation de Dieu. Et on nous dit que l'homme donc a besoin d'un sauveur qui peut pardonner les fautes, enlever la condamnation, enlever ce châtiment que l'homme mérite. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais quand Paul écrit aux Éphésiens, il veut souligner que la situation de l'homme est pire que cela. Et la première chose que Paul dit ici aux Éphésiens et qu'il veut que nous prenions conscience, c'est que l'homme n'est pas seulement séparé de Dieu, mais c'est que l'homme est mort. Verset 3. Quand il dit, nous tous, d'abord en verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Merci. Vous étiez morts. Verset 5, il le redit encore une fois, nous qui étions morts. La raison pour laquelle l'homme a besoin d'un sauveur, ce n'est pas seulement qu'il est séparé de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il a besoin d'être pardonné pour avoir offenser le seul vrai Dieu. L'homme a besoin d'un sauveur parce qu'il est à la morgue, parce qu'il est mort. S'il n'y avait seulement qu'une question de séparation, l'homme pourrait dire qu'il est désolé. L'homme pourrait dire qu'il va, comme on fait chaque nouvel an, on va prendre de nouvelles résolutions. L'homme pourrait même implorer la clémence de Dieu. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il est mort. Et l'apôtre va développer cette réalité. Regardez par exemple ce qu'il dit au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. L'homme commet des choses par nature. L'homme est pécheur par nature. Paul le redit dans une autre expression, verset 2, quand il parle de fils de la rébellion. C'est une autre manière de dire que la rébellion, elle est dans nos gènes spirituels. Elle fait partie de la nature humaine. Elle fait partie de notre nature pécheresse. David, le psalmiste, cet homme selon le cœur de Dieu, écrit au psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il ne parle pas d'une naissance illégitime ici, mais il parle de la profondeur de son péché. L'adultère qu'il a commis et le meurtre, ce ne sont pas simplement les conséquences ou le fruit d'un mauvais jugement, mais ce sont l'expression de sa nature, de son cœur de pécheur, de cette nature que l'homme hérite de ses parents depuis la désobéissance d'Adam. Vous qui êtes parents, vous le savez. que l'hérédité a une place importante. On retrouve les traits au niveau de la couleur des yeux, au niveau de la taille, au niveau de toutes les caractéristiques physiques. Mais c'est la même chose spirituellement. Les hommes, les êtres humains naissent pécheurs. Je ne pense pas qu'aucun de vous qui êtes parents ce soir n'ait un jour décidé de prendre son enfant en tête à tête et de lui dire, voilà, maintenant je vais te donner un cours pour comment devenir égoïste. Ou comment faire les choses en cachette. Pas besoin de donner de cours. C'est le cœur de l'homme. C'est la nature de l'homme. Quelqu'un me dira, oui, mais quelle est la relation de cela avec la mort spirituelle? On dirait plutôt que l'homme est actif dans sa rébellion, dans sa désobéissance. Mais si l'homme est actif dans sa désobéissance, il est mort quand on parle d'obéissance. S'il est vivant pour la rébellion, il est mort quand on parle de soumission. S'il est vivant quant à l'incrédulité, il est mort quand on parle de foi. L'homme n'a aucune envie spirituelle pour le conduire à se soumettre à Dieu, pour vivre pour la gloire de Dieu, pour vivre dans la dépendance de Dieu. L'homme est mort. Il y a un passage parallèle, un passage où l'apôtre Paul va le développer dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3. Ces versets, nous les connaissons. À partir du verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Paul ici cite le psaume 14, où le psalmiste dit, dans le contexte, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme est mort dans sa moralité, dans sa vie morale. Aucun ne fait le bien. Il est mort dans son intelligence. Verset 11, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. On sait très bien que l'homme cherche ce qui lui plaît, ce pourquoi il a de l'affection, ce qu'il aime. Il va chercher un bon travail, une place stable. Il va chercher la sécurité financière. Il va chercher le plaisir, parce qu'il aime ces choses. L'homme naturel ne cherche pas Dieu. Il ne trouve pas son plaisir dans la parole de Dieu. Il ne trouve pas son plaisir dans la compagnie des enfants de Dieu. C'est ce que Paul a dit dans ce verset que nous avons déjà cité au verset 3. Nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Jésus lui-même avait déclaré cette réalité quand il dit en Jean 3, verset 19, « La lumière étant venue dans le monde, Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'homme est mort dans son intelligence, il est mort dans ses affections. Il préfère les ténèbres plutôt que la lumière. Et l'apôtre continuait de dire que même l'homme est mort dans son expression, dans sa parole. Romains chapitre 3 et verset 13 et suivant. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Rien ne révèle aussi rapidement la dépravation du cœur de l'homme que ses propres paroles. Il suffit d'écouter vos voisins, vos collègues, les personnes que vous croisez dans la rue. Leurs discours, leurs paroles composées de tromperies, de médisances, de ragots. Jésus lui-même avait dit en Matthieu 12, 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Spirituellement parlant, l'homme est mort. Il n'a aucune aspiration spirituelle parce qu'il n'a aucune vie spirituelle. C'est important de le saisir parce que l'homme ne peut pas participer à son salut. L'homme ne peut pas, il ne peut rien apporter, il est mort. Au verset 10, Paul le dira autrement. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Remarquez le terme ici de créer. Est-ce que vous voyez ce que cela implique? Avant de connaître Christ, la condition de l'homme, la condition de ses croyants éphésiens, c'est-à-dire la condition de l'homme par nature, est si mauvaise, si désespérée, que l'homme a besoin non seulement d'un sauveur pour lui pardonner ses péchés, mais de quelqu'un qui va le créer, de le créer à nouveau, de lui donner une vie nouvelle. Il ne parle pas d'une amélioration, de prendre l'ancien et de faire en sorte qu'il devienne meilleur. Il ne parle pas d'une réforme. Au verset 5, il utilise un autre langage. Quand il dit « Nous étions morts par nos offenses », il nous a rendus vivants. Il nous a ressuscités. Il s'agit d'un miracle qui doit s'opérer. Cette vie, elle est non existante de façon naturelle. Il faut que quelqu'un vienne la donner, quelqu'un vienne la créer. L'homme n'est pas seulement séparé de Dieu, il est mort. Toutes ses pensées, toutes ses actions, tous ses sentiments ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais de la chair. Parce qu'il n'a pas de vie, l'homme naturel n'a pas de vie spirituelle. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il fait vient de ce qu'il est par nature, c'est-à-dire un enfant de colère, quelqu'un qui est mort. C'est un constat que l'apôtre fait, mais c'est un constat qui est réel. Quelqu'un va me dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que je connais des personnes qui ne sont pas croyantes, mais qui font le bien, qui font de bonnes œuvres. Sur un plan humain, c'est sans doute vrai. Mais quand on parle, quand cette personne parle ainsi, elle ne fait aucune référence à Dieu. Parce que quand il faut définir ce qui est juste et ce qui est mal, on ne peut pas se limiter au plan humain. Dieu doit entrer dans l'équation parce que l'homme a été créé pour Dieu. L'homme a été créé pour jouir d'une relation avec Dieu et Dieu mérite, Dieu est digne de notre amour, de notre confiance, de notre reconnaissance, de notre adoration. L'homme peut créer des hôpitaux. Il peut donner à manger à ceux qui ont faim. Il peut éduquer ceux qui sont ignorants. Mais si tout cela n'est pas fait pour rendre gloire à Dieu, cela n'est que péché. En 1 Corinthiens 10, verset 31, Paul exhorte les croyants à se rappeler de cela, à tout faire pour la gloire de Dieu. Mais l'homme naturel, donc qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas cette nouvelle vie en lui, tous ses actes viennent de la chair, puisque spirituellement il est mort. Et sans cette vie que Jésus donne, sans cette nouvelle vie, aucune de ses actions n'est spirituelle. Ce qui veut dire que sans Christ, toutes nos soi-disant bonnes œuvres ne sont que péchés. C'est le constat que l'apôtre a fait en Romains chapitre 3, verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il ne dit pas, il y a une petite minorité qui fait le bien et la majorité, malheureusement, elle fait le mal. Non, il n'en est aucun. Et un peu plus loin, dans cette même lettre aux Romains chapitre 8, et les versets 6 et suivants. Paul va expliquer cela en plus en détail. Et il dit ceci, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Sans la venue de Christ, du Sauveur qui donne la vie, l'homme vit, l'apôtre dit, selon la chair. Il s'affectionne des choses de la chair. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et l'homme est tellement en rébellion contre Dieu qu'il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il ne peut pas plaire à Dieu. Et l'apôtre conclut que l'affection de la chair, c'est la mort. La mort spirituelle est la condition de l'homme naturel, de l'homme qui vient dans ce monde, qui naît dans ce monde, qui n'est pas habité de l'Esprit de Dieu. Sans la vie nouvelle que Dieu donne en Jésus-Christ, tout ce que l'homme fait est une abomination aux yeux de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, Paul l'écrit différemment, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel est tellement perverti que lorsqu'il entend l'Évangile, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu manifestée en Christ, lorsqu'il entend ce message, pour lui, c'est une folie. Son sens des valeurs est tellement perverti qu'il est incapable de se saisir de cette vérité. Romains chapitre 6, nous avons vu un passage, et puis un peu plus loin, l'apôtre Paul écrit en Romains 6, versets 17 et 18, où il compare cela à de l'esclavage. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. » Ce constat est un constat qui est terrible. C'est un constat qui est réel, qui est vrai. Mais ce constat n'est pas une excuse. Paul n'est pas le seul à parler de cette condition désespérée de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 8, par exemple, un disciple s'approche de Jésus et au verset 21-22, il dit ceci, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il ne parle pas d'un mort physique, mais d'une personne morte spirituellement. Mais qu'est-ce que Jésus dit au sujet de cette mort? Est-ce que l'homme est donc excusable? Est-ce que l'homme, à cause de sa mort, peut-il dire que c'est parce qu'il est mort qu'il est incapable de vivre pour Dieu? En Jean 5, Jésus dit que si l'homme est incapable de se soumettre au Sauveur, c'est qu'il ne le veut pas. Il dit ceci, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. L'homme n'est pas sur un terrain neutre où il pourrait choisir. L'homme est mort. Mais l'homme va chercher à cacher cette mort. L'homme va chercher à se donner une apparence respectable plutôt que de reconnaître cette mort. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira par exemple aux pharisiens et aux chefs religieux en Matthieu 23. Il dit ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Voilà les hommes qui se croient vivants, qui donnent une apparence de juste, un homme propre, un homme religieux à l'extérieur, mais dont le cœur est plein d'impureté et plein de mort. Paul le dira d'une autre manière quand il écrit encore une fois aux Romains, au chapitre 9, en parlant de ceux qui ont cherché à obtenir d'être justes devant Dieu, mais pas par la foi, par les œuvres, et n'ont pas obtenu cette justice. Romains 9, verset, à partir du verset 30. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Dieu avait donné cette loi, avait révélé sa justice, sa sainteté au travers de cette loi. Mais cette loi révèle aussi la nature pécheresse de l'homme, la condition, encore une fois, terrible et désespérée de l'homme. Mais au lieu de venir à lui par la foi, ils ont cherché cette justice en essayant de vivre par les œuvres, de l'atteindre par les œuvres. Au début du chapitre 8 de cette lettre aux Romains, Paul a écrit cette chose au verset 3. « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Ce n'est pas que la loi est mauvaise. Non, la loi est pure. La loi de Dieu est parfaite. Mais chose impossible à la loi. Pourquoi ? Parce que les récipiendaires, c'est-à-dire ceux à qui la loi a été donnée, la chair était sans force. Ils étaient morts comme les autres. L'homme est spirituellement mort. Il ne peut rien faire. Il a besoin de celui qui est la vie, de celui qui donne la vie, de celui qui apporte la vie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous commencez à voir la noirceur de ce coussin? La noirceur de cet écrin qui est la situation, la condition désespérée de l'homme. Parce que quand on considère, quand on commence à réaliser cette noirceur, cet état désespéré de l'homme, alors quand l'apôtre Paul nous dit au verset 4, « Mais Dieu !» On commence à saisir la beauté, la perfection de cette pierre, de cette œuvre et de cette personne qu'est notre Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il est venu accomplir. L'homme est mort, nous l'avons dit, incapable de faire quoi que ce soit, dans une situation désespérée. Mais Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ par la foi. Et c'est un don de Dieu. Jésus avait annoncé cela pendant son ministère. Il avait annoncé que son œuvre, son message, que l'Évangile est cette bonne nouvelle de la grâce que Dieu révèle en son Fils. Il dit ceci en Jean 5, versets 24 et suivants. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quelqu'un va me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut entendre si on est spirituellement mort? Comment est-ce qu'on peut entendre cet appel, cette invitation de l'Évangile? Et nous avons une illustration de cette vérité ou de ce qui se passe avec la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus demande, se présente devant la tombe de Lazare et demande que la pierre soit enlevée devant la grotte, Marthe lui dit, « Mais Seigneur, il sent mauvais. » Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Pour Marthe et pour les Juifs, il n'y avait aucun doute, Lazare était bien mort. Et Jésus se tient devant cette tombe et il appelle Lazare. Et avec cet appel, il donne la vie. Lazare entend cet appel et répond et vient à Christ. C'est la même chose sur le plan spirituel. Pourquoi certains, peut-être d'entre vous, ont eu ce privilège, comme moi, d'écouter la parole de Dieu presque chaque jour? On apprend des choses. On mémorise des versets. Et puis il y a un jour où cette voix se fait entendre, où l'on entend cette invitation de venir à Christ. Et cette voix, elle touche notre cœur. Pourquoi est-ce que tous les autres fois, on ne l'a pas entendue? Parce que nous étions morts, comme les autres. Et un jour, Dieu a fait grâce. Dieu nous a appelés, il nous a donné la vie pour que nous entendions cet appel, pour que nous puissions répondre à cet appel, pour que nous soyons capables de croire en Christ, de nous accrocher à lui et de trouver en lui ce Sauveur dont nous avons besoin. Est-ce que vous commencez maintenant à voir ce contraste, cette gloire, cette beauté de la personne, de la perfection de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de la valeur de son œuvre devant la situation désespérée de l'homme? L'homme est mort, incapable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu nous a ressuscité, nous a fait vivre avec Christ. Est-ce que l'on voit, est-ce que l'on commence à réaliser que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu, de cette grâce qu'il manifeste en Jésus-Christ? On ne peut pas mettre en avant nos mérites. On ne peut pas mettre en avant nos qualités. Tout cela, c'est de la chair. Nous dépendons de Dieu et de lui seul. Voilà le témoignage de l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il rappelle à ses croyants à Éphèse. Et voilà ce qu'il veut que nous réalisions ce soir. Par nature, l'homme est mort. Aucun ne fait le bien. Quoi qu'en dise le monde a une échelle de valeur, mais qui ne tient pas compte de Dieu. La parole de Dieu est claire. Aucun ne fait le bien. Tous ont péché. Tous sont morts. Mais Dieu, et c'est l'expérience du croyant, Dieu m'a ressuscité, Dieu m'a recréé, Dieu m'a donné une vie nouvelle en Christ. Il m'a créé, comme il le dit au verset 10, que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que, non pas moi-même, mais lui a préparé. Je n'ai aucun mérite. J'ai tout de la part de Dieu. C'est ce que l'apôtre avait dit en ouvrant cette lettre au chapitre 1er, quand il dit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions ?» Non, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout de Dieu. Nous avons tout en Christ. Je ne peux rien apporter. Je n'ai aucune participation à mon salut. C'est Christ seul. C'est Dieu seul qui m'a donné cette vie en Christ. Qui m'a donné cette vie nouvelle afin que je m'accroche à Christ. Et que je trouve en lui ce sauveur parfait, cette pierre précieuse, ce bijou. Est-ce que nous saisissons un peu plus ce soir la beauté, la valeur de cette pierre, la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Dieu me donne tout en lui. Si je lui appartiens ce soir, ce n'est pas parce que je suis différent des autres. Non, j'étais mort comme les autres. Si je lui appartiens ce soir, c'est parce que lui m'a aimé. Il m'a même aimé avant la fondation du monde. Et il m'a appelé à lui. J'ai tout par lui, par Christ. Que Dieu nous aide à saisir cela. Que Dieu nous aide à le vivre, à réaliser que lorsque tout ce que j'ai vient de lui, de sa grâce, de cet amour dont il m'a aimé depuis toujours. À lui seul soit la gloire. Amen.